Il est seul, sur le ring, sautillant, vêtu d'un peignoir à capuchon. Il est filmé au ralenti, tantôt gracieux, tantôt volant, mais ne vous y trompez pas. L'histoire de Jake LaMotta, champion du monde de boxe de poids moyen, surnommé le taureau du Bronx, est le récit d'un homme qui se trouve face au mur, dit Scorsese, et qui ne parvient ni à le détruire, ni à l'escalader. Est-ce pour autant le récit d'un échec ? La fin, le film nous la donne dès le début, où l'on passe de l'athlète sur le ring à l'homme bedonnant qui tente de réciter du Shakespeare dans sa petite loge afin de nous proposer un spectacle d'un autre genre, pop-corn à la main.
Because one night, I took off my robe, and what I do? I forgot to wear shorts.
Comme vous le savez, ma vie n'a pas été vide. Quoique j'aime mieux entendre vos bravos quand vous fouillez. Quoique j'aime mieux entendre vos bravos quand je fouille dans Shakespeare. Un cheval, mon royaume pour un cheval. J'ai pas touché un cagnon en 6 mois. Bien que je sois pas Laurence Olivier, j'aimerais beaucoup mieux. Eh bien, que je ne sois pas Laurence Olivier, mais s'il avait boxé Sugar Ray, il vous dirait ce qui fait Gling, c'est pas le ring, c'est le spectacle.
And though I can fight, I'd much rather recite. That's entertainment. That's entertainment.
Bonjour Eric Rochant.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin pour parler du cinéma de Martin Scorsese et de Raging Bull en particulier. Est-ce que c'est votre film préféré de Scorsese ?
C'est un de mes films préférés. Il en a fait tellement que non, j'en aime beaucoup, mais c'est un de mes films préférés. Bon, j'ai beaucoup aimé évidemment d'autres films comme New York, New York par exemple. Mais c'est un film, je me souviens d'avoir vu pour la première fois. On était à l'IDEC, c'était à l'époque où j'étais à l'IDEC avec Arnaud Desplechin, Pascal Ferrand. Et quand il est sorti, cette première vision, on a su tout de suite, vraiment, mais à la seconde près, on voyait ce générique incroyable en noir et blanc. Et avec cette musique très, très belle, très mélancolique, très lyrique, et ce ralenti, on savait très bien qu'on était devant un chef-d'œuvre dès le générique. Et donc, effectivement, c'est un de mes films préférés, enfin, c'est un des films de Scorsese qui m'a fait le plus d'effet au moment de sa sortie, je pense.
Alors, de ce film, il a été dit que c'était une réflexion philosophique sur la part d'animalité que nous avons en nous, ou que c'était une introspection religieuse sur la culpabilité, ou le récit de déchéance d'un athlète qui avait tout pour être heureux et qui gâche sa propre vie rongée par l'autodestruction. Et vous, quelle lecture en faites-vous ?
Alors, oui, on peut résumer. C'est difficile de résumer en une seule phrase un film aussi, aussi riche.
Bon, on a une heure, hein. Vous aurez le temps de développer.
Très bien, ça marche. Moi, je pense que c'est un film sur la damnation. C'est pour ça que je me sens assez proche de cette thématique. C'est un film qui est damné par sa nature même, à sa propre nature. Donc, il n'a aucun moyen de s'en sortir. Et donc, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup et qui court pas mal dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai écrit, même dans le Bureau des légendes. Je voudrais revenir sur une chose quand même, puisqu'on parle du générique. Je voudrais revenir sur l'idée d'un film en noir et blanc. C'était pas évident à ce moment-là, à l'époque où c'est sorti, de faire un film entier en noir et blanc comme ça. Et on a pu se poser la question de l'utilisation du noir et blanc à cette époque où c'était fini, hein, depuis longtemps, le noir et blanc. Maintenant, on parlait de la couleur.
On est en 1980 hein, quand le film sort.
Voilà, pourquoi le noir et blanc ? Alors, le noir et blanc, je pense que le noir et blanc a toujours été utilisé comme ça au moment où c'était anachronique, hein, c'était déjà fini, le noir et blanc, et en général utilisé pour introduire une distance, c'est-à-dire pour marquer le fait que c'est une représentation, hein, pour introduire une distance et pour pas faire croire que c'est la réalité. Et du coup, cette utilisation du noir et blanc fait poser la question de ce que c'est que la vérité et du rapport des films qu'on voit à la vérité. On fait des films, comme on écrit des livres, en tout cas on va voir des films, on lit des livres, en fait pour savoir la vérité, pour savoir la vérité sur les choses. C'est les films et les livres et d'autres œuvres d'art qui nous disent la vérité sur les choses. Alors pourquoi on pense que c'est la poésie, hein, c'est-à-dire qui dit la vérité ? Alors Lacan disait, la vérité ne peut être que mi-dite, c'est-à-dire que dite à moitié, elle ne se dévoile jamais complètement. Mm-hmm. Alors du coup, on peut se demander comment on peut atteindre la vérité des choses. La vérité des choses, ça veut dire en fait ce que c'est. Par exemple, on peut se poser la question sur ce que c'est que l'amour, ou ce que c'est que la violence, ou ce que c'est que la jalousie. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est pas que des mots. Les mots eux-mêmes ne disent pas, en fait pointent vers la chose, hein, c'est-à-dire la vérité de l'amour, le mot amour. On peut toujours dire je t'aime à quelqu'un, on peut très bien ne pas savoir ce qu'on dit. D'ailleurs, des fois, même on se fait accuser de ne pas savoir de quoi on parle. On peut le dire trop vite, sans avoir aucune expérience, sans savoir ce que c'est que l'amour. Donc, si on se pose la question de savoir ce que c'est que l'amour, évidemment, c'est pas le mot amour qui va nous le dire. Le mot amour n'est qu'un tag, on pourrait dire. Mmh. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que l'amour, ou qu'est-ce que c'est que la chose dont on parle, et comment atteindre cette vérité-là pour savoir ce que c'est exactement? Et là, du coup, il faut traverser, je dirais, le langage, c'est-à-dire utiliser le langage, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de pointer vers les choses, et en même temps, faut aller au-delà du langage, faut traverser le langage, parce que le langage lui-même ne nous dira rien. C'est ce que Proust disait en disant atteindre la vraie vie par et malgré le langage. Par le langage, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de dire les choses que de les dire, mais malgré le langage, parce que les dire ne suffit pas, les dire ne donnent pas la vérité des choses. Et donc, il faut effectivement, de la même manière, on pourrait dire par et malgré les images, c'est-à-dire les images peuvent faire écran devant la chose même, la chose qu'on essaie de dire, de montrer, la chose qu'on essaie d'exprimer à travers une histoire comme celle de Raging Bull. En fait, les images elles-mêmes peuvent faire écran. C'est-à-dire que si elles sont peut-être trop réalistes ou trop... en fait, elles peuvent nous empêcher de voir. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant. C'est l'idée que l'image peut nous empêcher de voir. Et d'ailleurs, c'est aussi le débat. Ça a pu être le débat entre Shoah, par exemple, le film de Lanzmann, et Nuit et brouillard. Parce que Nuit et brouillard nous montrait les images d'archives de la Shoah, alors que Lanzmann ne nous montrait rien. Et Lanzmann, ne nous montrant rien, nous disait beaucoup plus ce qu'était la vérité, enfin ce que c'était exactement que la Shoah, plutôt que de nous le montrer en fait nous choquait beaucoup, mais ne nous disait pas vraiment ce que c'était exactement. Et je pense que l'utilisation du noir et blanc, en fait, c'est pour empêcher l'image de faire écran devant la chose.
Ça veut dire que le noir et blanc serait le meilleur moyen d'atteindre cette vérité dont vous parlez?
En fait, le noir et blanc permet à l'image de ne pas faire écran. C'est-à-dire de dire, attention, il faut traverser cette image. Puisqu'elle est en noir et blanc, ça n'est donc pas la vérité. Ça n'est donc pas la réalité. Ça n'est donc pas, on n'a pas mis une caméra, on n'a pas photographié la vie. Hein? C'est en noir et blanc.
C'est ça, c'est l'artifice qui se revendique lui-même.
C'est l'artifice qui se revendique lui-même et qui, du coup, nous oblige à traverser l'image et à aller chercher ce que ça dit à travers l'image. Et je dirais même par et malgré l'image. Et ça, l'utilisation du noir et blanc qui, comme ça, alors que c'est un choix, à ce moment-là, c'est un vrai choix artistique, puisque ce n'est plus une nécessité technique, hein, puisqu'on pouvait faire la couleur. Donc, l'utilisation du noir et blanc est une distance, introduit une distance, qui permet à l'image de ne pas faire écran à ce qu'elle montre. C'est un peu paradoxal, mais c'est exactement ça dont il est question.
Scorsese lui-même dit qu'il a choisi le noir et blanc parce que c'était la meilleure manière pour lui de se distinguer des autres films de boxe qui étaient contemporains. Rocky notamment sort à peu près au même moment. Et pour lui, le noir et blanc était une manière de dire « Attention, moi je vais pas vous montrer la même chose ». Et d'ailleurs, ce film qui raconte l'itinéraire d'un boxeur n'est pas un film de boxe.
Exactement, c'est pas un film sur la boxe. Et c'est bien pour ça que l'image elle-même, l'image d'un boxeur peut faire écran, puisqu'elle peut nous faire croire que ce qu'on voit, c'est un boxeur. Que ce qu'on a à regarder, c'est un boxeur. Hein. Or, ça n'est pas ça dont il s'agit de parler. Il s'agit, comme vous l'avez dit avant et qu'on en parlera plus tard, il s'agit de raconter une damnation. C'est-à-dire de raconter quelqu'un qui se heurte contre un mur. Mais le mur, c'est lui-même. Donc il se heurte contre le mur de lui-même. Ça, c'est ce qu'il y a de fondamental et de très intéressant dans ce film. Et on verra que la dernière scène dont on va parler parle de ça. Mmh. Et donc ça veut dire que l'image, si on montre un boxeur, on croit que ce qu'on a à voir, que ce qu'on a à regarder, hein, on croit que ce qu'on nous montre, c'est un boxeur. Mais non, on nous montre un boxeur pour que, à travers le boxeur ou à travers son histoire, ça ne soit pas l'histoire d'un boxeur qu'on raconte, mais bien une histoire beaucoup plus, peut-être universelle, même plus profonde, même si ça peut être très profond, mais encore plus profonde. Et donc, l'utilisation du noir et blanc, d'une certaine manière, nous dit, vous allez voir un film sur un temps passé, hein, puisque c'est un film sur une époque révolue, et donc, du coup, le noir et blanc nous indique que le temps a fait son effet sur cette histoire-là, mais surtout aussi, c'est que, non, vous ne voyez pas un boxeur. Vous voyez un boxeur au ralenti, au noir et blanc, donc en fait, ce que vous avez à regarder, ce n'est pas un boxeur, mais probablement quelque chose de beaucoup plus mélancolique, une certaine mélancolie, la musique le dit, une très grande mélancolie, qui en fait, qui naît d'une certaine manière du tragique, en tous les cas, du dramatique que va nous dérouler toute l'histoire.
C'est tout le paradoxe de ce film que de s'intéresser à l'itinéraire de ce boxeur qui a vraiment existé, hein, Jacques Lamotta, et qui avait écrit un livre pour raconter ses combats, dont Scorsese va s'inspirer, va essayer d'adapter ce texte-là à l'écran sur les conseils de De Niro. Donc le film va raconter 23 ans de la vie du boxeur en alternant les séquences de combats qui sont toutes datées et localisées avec des moments de sa vie personnelle. Donc il y a les combats avec Jimmy Reeves, Janiro, Marcel Cerdan et des combats avec lui-même. Et dès le début du film, dès ses premiers plans, on comprend que le véritable combat est celui contre lui-même et que le but à travers l'image, c'est de faire sentir et éprouver au spectateur toute la démesure de ses propres perceptions. Il est malade, c'est une subjectivité malade, et le film raconte l'itinéraire de cette maladie intérieure qu'il n'arrive pas lui-même à nommer.
Alors, oui, c'est ça. Mais en fait, on pourrait dire qu'il est complètement stupide, le pauvre vieux. Et en fait, c'est là où c'est extraordinaire.
Vous êtes moins clémente que moi.
Non, c'est là où c'est extraordinaire. Non, c'est un bœuf, ce mec. C'est un type qui ne voit... D'ailleurs, il le joue comme ça. Il a le front, il a le regard complètement abruti. C'est un abruti dangereux pour les autres et pour lui-même, ça, on le verra. Mais ce qui est extraordinaire... c'est qu'il raconte l'histoire d'un abruti qui réalise qu'il est abruti. Et ça, c'est là, à ce moment-là, qu'on atteint le côté complètement dramatique et lyrique de cette histoire. C'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui va se heurter, qui se heurte contre sa propre limite. Et donc, et je pense que ce qui était extrême, et c'est visible dès le début du film, et c'est très visible dans les combats de boxe, d'ailleurs, parce que, si je me souviens bien, parce que j'ai pas revu le film depuis longtemps, si je me souviens bien, mais ça m'avait vraiment marqué, c'est que il y a des coups qu'on voit, au ralenti. Hein, on voit les coups... c'est quelque chose qui a beaucoup marqué le film au niveau formel, c'est-à-dire les coups de très, très ralenti, où on voit les petites gouttelettes... c'est le temps de parler des gouttelettes. Les gouttelettes de sueur qui éclaboussent, qui s'éparpillent, le sang qui sort au ralenti. Mais surtout, ce qu'on voit, ce qu'on entend aussi, c'est le son. Et d'ailleurs, c'est un son extrêmement sourd. Et ce qui est génial dans la bande-son de ce film, c'est qu'en dehors des combats, il y a comme l'écho des coups qu'il a reçus. Et on voit très bien, il le montre très bien, c'est que c'est là où c'est extrêmement aussi, d'une certaine manière, il y a un côté très social, c'est que c'est un gladiateur, hein, c'est un gladiateur qui va sur le ring pour faire plaisir aux autres et puis aussi pour faire gagner de l'argent à ceux qui parient, se prend des coups. Et en se prenant des coups, il prend des coups au cerveau, et donc il devient de plus en plus abruti, parce que, en fait, il ne va pas se remettre de ses coups, mais intellectuellement, je dirais même presque neurologiquement, il ne va pas s'en remettre. C'est-à-dire que chaque coup est un coup qui l'enfonce un peu plus dans l'abrutissement. Donc, et ça, Scorsese le montre très bien, et grâce au son.
Voilà, et ben on va entendre un autre extrait, justement, où non seulement il reçoit des coups, mais il demande à en recevoir, et pourtant, il n'est pas sur le ring, c'est son frère qui va le frapper. Écoutez l'extrait.
Larry!
Crazy animal!
Who's an animal? Your mother's an animal, you son of a bitch!
Oh.
You're gonna find your dog dead in the hallway tomorrow, you
fuck! Yes. Don't block, people could hear you.
Enfin, tu peux pas faire tout ce bordel chez toi, tu peux pas faire ça.
Il y a quelque chose qui va pas, hein? Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qui va pas chez moi? Les mains.
Tes mains? Je comprends pas.
Elles sont toutes petites. On dirait celles d'une fillette.
J'ai les mêmes, et puis après...
Tu sais ce que ça veut dire? Que moi, j'aurais beau grandir ou boxer devant qui tu veux ou faire n'importe quoi, je ne boxerai jamais contre Joe et Louis.
Oui, ça c'est vrai, c'est un poids lourd et un welter, on le sait, ça.
J'aurai jamais l'occasion de boxer contre le meilleur. Et tu sais pas le plus beau, je suis meilleur que lui. Et pourtant, j'aurai jamais l'occasion. Rends-moi un service.
Qu'est-ce que tu veux?
Je veux que tu me tapes dans la gueule.
Quoi?
Je veux que tu me tapes dans la gueule.
Fais pas chier.
Non, mais je veux que tu me tapes dans la gueule. Vas-y, vas-y, mais si t'appêches...
Je te dis, fais pas chier, je le ferai pas.
Alors quoi, t'es mon sparring partner? Pourquoi ça t'ennuie de me taper dans la gueule? Tape-moi dans la gueule, allez, vas-y.
Non,
fais... T'as peur?
J'ai peur de quoi?
Allez, fais pas ta pédale, vas-y, frappe-moi.
Ça commence à bien faire.
Allez, vas-y.
Tu veux vraiment que je cogne?
Je veux que tu me frappes pendant toute façon, je veux que tu me foutes la gueule en miettes. Allez, vas-y, cogne.
T'es sûr?
Ouais.
J'y vais.
Ouais, vas-y. Plus fort. Plus fort, vas-y.
C'est pas chier.
Vas-y. Si je veux te refiler une baigne dans la gueule, cogne encore le coup.
Allez, vas-y.
Allez, vas-y, plus fort, plus fort.
Non, tu veux me dire où ça te mène, ça? Mais où ça te mène, dis-moi.
Ce combat de boxe à main nue entre frères, vous l'écoutez sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Nous parlons de Scorsese cette semaine, aujourd'hui en compagnie du réalisateur Éric Rochant. Alors, vous l'avez sans doute entendu ici, le bruit, vous parliez du son hein, dans ce film Éric Rochant, le bruit des coups de poing ici est très particulier. Et d'ailleurs, tout le travail sur le son, c'est celle qui a travaillé sur le montage de ce film, Thelma Schoonmaker, qui dit que Scorsese inventait un nombre de sons, mais y compris de musique, mais aussi des bruitages phénoménales, et qu'il détruisait tout après coup pour ne pas qu'on puisse se procurer la source même de ces sons. Et c'est une des choses dont on se souvient quand on regarde ce film, Éric Rochant. Ça marque vraiment ce son.
Alors, moi, ça me fait un peu mal d'entendre l'extrait en français, je dois vous avouer. Parce que,
et oui, mais vous pensez bien qu'on peut pas partir du principe que
on peut pas sous-titrer
anglais,
à la radio. Je comprends pas.
On peut pas sous-titrer. Voilà. Parfois, on le fait, mais on passe de l'anglais au français.
Donc, oui, le son. Moi, ce que je disais, c'est qu'en en fait, on entendait encore les coups. Il y a encore en fait l'écho, la rémanence des coups dans la vie du personnage, alors même qu'il a fini son combat. Ça, c'est très important. Scorsese montre à quel point les coups continuent à faire leur mauvais effet sur son cerveau. Alors, ça, c'était vraiment très très important. C'est comme une sorte vraiment de brouillard, d'orage. Enfin, ça résonne. En fait, voilà, les coups résonnent encore dans sa tête. Ensuite, dans les autres scènes. Dans cette scène-là, en fait, cette scène-là, vraiment, c'est une des scènes les plus connues du film. Tous les acteurs la répètent et la rejouent pour jouer ce qu'a joué De Niro, parce que les deux frères, là, c'est une scène absolument extraordinaire. Le film, c'est un film qui est arrivé en 80, mais pour moi, Scorsese, si vous voulez, c'est vraiment c'est un des auteurs qui m'a fait naître au cinéma, en tous les cas, vraiment, qui m'a fait naître mon désir de cinéma, même si avant j'étais spectateur. Et c'est le cinéma américain des années 70, d'une certaine manière, puisque Taxi Driver, c'était 73, c'était je crois, la Palme d'Or 73 ou 74. En tous les cas, c'est un cinéma, d'une certaine manière, du réel, mais aussi un cinéma violent. La violence faisait irruption dans le cinéma, une violence assez forte. Hein, Taxi Driver, c'est un film extrêmement violent. Alors, Raging Bull, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film très lyrique et très chrétien. Hein. Il y a une vraie philosophie chrétienne dans ce film. Mais c'est un film qui passe par la violence. C'est un cinéma qui passe par la violence et donc, d'une certaine manière, par le spectacle de la violence. La violence fait spectacle et permet probablement une certaine articulation entre l'entertainment, c'est-à-dire le divertissement, et quelque chose de plus profond, un message, en tout cas une parole philosophique ou thématique, donc une recherche de la vérité. Hein. Et donc, la recherche de la vérité à travers le spectacle, ça c'est un peu ce que cherche à faire le cinéma en général. Quand on est trop du côté de la vérité, sans faire spectacle, on est un peu ennuyeux. Et puis quand on fait spectacle, on y reviendra tout à l'heure, quand on fait que spectacle sans essayer d'atteindre aucune vérité, on est dans le pur entertainment et donc ça n'a pas grand intérêt. Donc ce cinéma-là qui a toujours essayé, ça m'a toujours un peu fasciné dans le cinéma américain des années 70 et des années 80. Je parle aussi, par exemple, je pourrais parler de Chimino, hein, de Voyage au bout de l'enfer, qui est à peu près la même époque. Enfin, ce qui m'a toujours fasciné, c'était cette articulation qu'a très bien su faire le cinéma américain entre l'entertainment et la profondeur et la vérité. Et je crois que la violence, d'une certaine manière, joue ce rôle-là. Hein, joue ce rôle, parce que la violence, c'est toujours un peu... Alors, c'est aussi un film de gangster. Donc, ce côté-là, gangster-violence, c'est du côté spectacle. Et c'est un véhicule. C'est un véhicule, comme d'ailleurs le western était à un moment donné un véhicule aussi, qui était juste, c'était un espace métaphorique, hein, à travers, dans tous les westerns qu'on faisait, on racontait plein de choses sur les sentiments, sur le courage, sur l'amour, sur plein de choses différentes. Et bien là, c'est pareil, mais là, c'est à travers des films de gangsters. En fait, ce sont des métaphores, ce sont des espaces métaphoriques et qui font spectacle. Donc il y a vraiment une très belle articulation entre le spectacle et la profondeur, qui est pour moi, qui a toujours été un bon équilibre.
Mais vous insistez sur la vérité depuis le début de notre discussion, Éric Rochant. Est-ce que vous pensez qu'avec le cinéma, en tout cas les films que vous faites, vous parvenez à atteindre cette vérité? Et si oui, quelle est-elle?
Mais c'est les grands chefs-d'œuvre. Les grands films vous disent la vérité sur les choses. Par exemple, ce film-là, on va le voir, dit la vérité sur la damnation de l'homme, d'une certaine manière. Bon, les grands films sont des métaphores. Or, ça n'est que métaphoriquement qu'on peut dire la vérité sur les choses. Parce que si on est littéral... En fait, on est dans la tautologie. Je repense à cette thématique de l'amour. Quand on est jeune, on se dit, mais c'est quoi aimer? Est-ce que je suis en train d'aimer cette personne-là? Est-ce que c'est vraiment de l'amour que je lui porte ou pas? On essaie de savoir. on essaie de connaître la vérité de ses propres sentiments. On se pose la question, on parle d'amour, mais est-ce que c'est ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est de l'amour ou de l'amitié? Ou est-ce que je me mens à moi-même, etc. Donc on se pose la question de la vérité de ses propres sentiments. Et où c'est qu'on va la chercher, cette vérité? C'est-à-dire, qui va nous dire ce qu'on ressent? À quoi ça ressemble, l'amour? Eh bien, les films ou les romans, ou même la poésie va nous le dire. L'amour, c'est pas dire je t'aime. Ça, c'est la métaphore la plus littérale du monde. C'est-à-dire, c'est l'expression la plus littérale du monde. Non, des films vont nous dire, ben voilà, eh bien, l'amour, c'est peut-être cette scène-là, ou cette façon d'agir vis-à-vis de quelqu'un. Ça, c'est l'amour. Et donc, c'est à travers une scène, et donc, ou à travers même tout un récit, ou même toute une histoire, ou même, voilà, ou tout un roman, qu'on va apprendre ce que c'est que l'amour. Vous voyez? Donc, c'est une métaphore.
Vous iriez jusqu'à dire que vous faites du cinéma, votre choix de faire du cinéma est guidé par l'envie de dire la vérité, de la montrer?
Oui.
Au plus de monde possible?
Oui, je pense que c'est, alors, le cinéma, pas seulement cinéma, hein, mais je pense que toute expression artistique sert à dire la vérité sur les choses. En fait, il n'y a que la poésie, l'art, donc comme ça, qui peut dire la vérité sur les choses. Parce que cette vérité ne se réduit jamais au discours, ne se réduit jamais à un discours qui expliquerait ce que c'est. Non, en fait, c'est ce que disait Lacan quand il disait ça, en fait, on ne peut la dire qu'à moitié. Il y a toujours une face cachée de la vérité. Il y a toujours quelque chose de caché. Et c'est ce truc caché, c'est ce truc opaque, c'est ce truc qu'on n'atteindra jamais, autour duquel nous devons toujours tourner, qui finalement, fait aussi qu'il y aura toujours de l'art. Il y aura toujours des œuvres d'art. Quoi qu'il arrive, on a toujours peur que les machines prennent le pouvoir, ou que les robots, ou que l'intelligence artificielle. Non, il y a un rapport à la vérité qui est proprement humain et qui est fait du manque. On manque de la vérité. On ne sait pas ce qu'on ressent. On ne sait pas si ce qu'on dit est vrai. On ne connaît pas le sens de nos paroles. Et c'est parce qu'on se pose la question qu'on fera toujours de l'art, parce qu'il n'y a que l'art, il n'y a que la métaphore. En fait, il n'y a que la poésie, encore une fois, qui, en utilisant le langage, mais malgré le langage, atteint les choses.
Alors, est-ce que la philosophie, elle, peut nous aider à y voir plus clair? Je vous propose, pour qu'on chemine ensemble vers la vérité que nous délivre ce film Raging Bull, qu'on entende un texte de Sénèque qui inscrit l'expérience individuelle dans une destinée plus large. Et la question se pose de savoir si le personnage principal de Raging Bull serait lui-même soumis à un destin, comme si le film était finalement le récit d'un échec écrit à l'avance. Écoutez ce texte.
Nos destins nous mènent, et la première heure de notre naissance a réglé tout le temps qui nous reste à vivre. Une cause dépend d'une autre cause. Un ordre de choses éternel détermine la vie privée et la vie publique. C'est pourquoi il faut tout supporter avec courage. C'est que rien ne survient par hasard, comme nous le croyons. Tout vient à son heure. Avant le temps, a été décidé ce qui te réjouit ou te fait pleurer. Et bien que la vie de chaque homme se colore en apparence de grandes variétés qui les distinguent, le tout se résume au même point. Passagers, nous avons reçu des biens passagers. Pourquoi donc s'indigner ainsi? De quoi nous plaignons-nous? Nous sommes nés pour cela. Que la nature use comme elle veut de corps qui sont à elle. Pour nous, toujours joyeux et courageux, pensons que rien ne périt de ce qui est vraiment à nous. Qu'est-ce qui appartient à l'homme de bien? C'est de s'offrir au destin.
Sénèque sur fond de match de boxe. Alors Jake est un homme doué, mais qui est rongé par ses tendances à l'autodestruction, par la jalousie, on va y venir, et qui finit en surpoids considérable, patron d'un nightclub vraiment minable, je dois dire. On pourrait avancer l'hypothèse, Éric Rochant, que le vrai combat de ce film, c'est pas les combats qui ont lieu sur le ring, dont la plupart du temps d'ailleurs il sort victorieux, mais c'est le combat d'un individu contre son destin. Puisque le film nous annonce dès le départ ce qui va se passer, c'est comme s'il y avait une suite inéluctable, une sorte de déchéance contre laquelle il ne pouvait pas lutter, et que s'il souhaite recevoir des coups, c'est parce qu'il sait qu'il va les recevoir de toute façon. Sa liberté est bien mince par rapport à son destin.
Bah, oui, alors donc là, la liberté, pour le coup, on est dans sa propre prison, c'est-à-dire on est emprisonné en soi-même. Alors, d'aucuns pourraient dire, voilà, c'est la prédétermination, c'est la détermination, l'inné, l'acquis, etc. Ok, très bien. Mais en fait, moi, je pense que ce qui est intéressant, ce qui est vraiment fort dans ce destin, c'est que c'est un homme qui réussit, que par là où il réussit, c'est-à-dire là où il devient champion, c'est-à-dire champion de boxe, c'est par là où il devient champion que aussi il va être mené à sa perte, parce qu'encore une fois, plus il prend de coups, plus il devient abruti. C'est-à-dire ça l'abrutit, ça le rend stupide. Et donc, les coups ne vont rien arranger. Et donc, à un moment donné, il va suivre sa pente, qui est celle de la violence, mais qui est aussi celle de la paranoïa. C'est-à-dire, on peut se poser la question si plus il prend de coups, plus il devient jaloux, ou plus il devient paranoïaque, puisque plus il prend de coups, en gros, plus il devient bête. Et donc, il n'arrive même plus à prendre du recul vis-à-vis de soi-même, et donc, il va s'enfoncer dans cette stupidité qui va le mener à sa perte, et évidemment, à la fin, il va faire un truc complètement dingue, qui consiste à vendre les diamants de sa ceinture de champion du monde, et en faisant ça, il lui enlève toute valeur. Ouais. Il se retrouve vraiment sur la paille, et donc, en prison. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où c'est bien pour lui, c'est-à-dire de devenir un champion de boxe, c'est là où c'est bien pour lui que c'est aussi très très mauvais pour lui, puisque ça le détruit. On pourrait dire que c'est un peu comme la drogue, c'est-à-dire ça fait du bien puis ça détruit. Là c'est pareil, c'est-à-dire mais c'est son destin. Son destin c'est d'être détruit par là où il réussit. Voilà. Et donc ça c'est extrêmement fort puisque ça pose la question effectivement de nos propres limites, c'est-à-dire ce qui nous détermine, c'est-à-dire ce qui est notre essence peut être aussi notre limite contre laquelle on va se heurter à la fin. Et ça on en parlera probablement à l'occasion de la scène de la prison, je pense.
Voilà, et avant la scène de la prison, on a une scène à écouter ensemble, Eric Rochant, qui est l'ultime face-à-face entre les deux frères, Jake et Joey, De Niro et Pesci, le duo phare de Scorsese hein, qu'on va retrouver dans beaucoup, beaucoup de ses films, notamment dans ceux dont on parle cette semaine. Vous allez entendre comment Jake, qui devient jaloux, mais maladivement jaloux, qui est persuadé que sa femme le trompe, comment il en vient à accuser son propre frère d'avoir couché avec elle. Et rien dans ce que vous allez entendre ne fait sens, on est dans une espèce d'escalade intérieure vers ce qu'on pourrait appeler la folie, ce qui n'est pas sans rappeler d'autres personnages de la littérature, et notamment, je pense, au personnage Othello de Shakespeare. Écoutez la scène, vous nous direz ensuite.
I don't even kiss your mom on the mouth the way you kiss. All of a sudden, you're like a Romeo.
So you're not supposed to kiss your mother on the mouth?
That's what I'm talking about.
What are you giving me dirty looks for?
Hein? Qu'est-ce qui s'est passé entre Salvi et toi à la boîte l'autre fois?
Quand?
La fois où tu l'as tabassé.
Quand je lui ai coincé la tête dans un taxi en rabattant la porte dessus et j'ai frappé avec un verre et tout le cirque?
Ouais, ça.
Je t'en ai parlé de ça.
Est-ce que Salvi a baisé Vicky?
Quoi?
Est-ce que Salvi a baisé Vicky?
Et Jake. Joey. Arrête avec tes conneries. Non, parole, ne recommence pas.
Joey, je t'avais dit, je te l'avais dit de surveiller Vicky.
Et je l'ai surveillé, Vicky, parfaitement. Bon,
alors pourquoi t'as frappé Salvi?
Jake, je suis ton frère. Tu dois me croire, en principe. T'as pas confiance en moi?
Non, pas du tout.
Ah non? Merci.
Je te crois pas. Quand il s'agit de Vicky, j'ai confiance en personne. Mais je vais te dire un truc. Si j'apprends quoi que ce soit sur la tête de notre mère, je te jure que je fais un malheur. Je buterai n'importe qui, Joey.
Mais vas-y, fais un massacre. T'es un fier à bras. Vas-y, bute tout le monde. Tue Vicky. Tu Salvi, tu Tommy Como, tu moi, tant qu'à faire, je m'en fous. T'es alors, un tueur, un grand caïd, alors tu, c'est toi le tueur.
Excuse-moi, pourquoi tu parles de toi, Joey?
Et alors? Je comprends pas,
enfin, j'ai dit toi-même, ça comme ça. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu me parles de toi.
J'ai dit ça comme ça.
You could have said anybody, but you said you and them.
You really let this girl ruin your life, look at you. She really did some job on you, how fucking nuts you are. Look what she did to you.
You fucked my wife.
What?
You fucked my wife.
How could you ask me a question like that? How could you ask me? I'm your brother. You ask me that? Where do you get your balls big enough to ask me that? You know what you do? Try a little more fucking, a little less eating. You won't have troubles upstairs in your bedroom, and you won't pick it out on me and everybody else. You understand, you fucking wacko? You're cracking up.
Je ne crois pas que l'Othello de Shakespeare demande à Cassio s'il a baisé sa femme, hein, you fuck my wife, cette réplique culte qu'on a gardée en anglaise, vous avez vu Eric Rochon quand même, pour le plaisir de l'entendre.
Merci, c'est bien.
Mais l'histoire est la même. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce Jake est une sorte d'Othello cinématographique?
Bon, en tous les cas, c'est un personnage, c'est un personnage très, très, très grand, très épique, tragique, presque. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est vraiment une scène dont on se souvient encore très longtemps après, parce que effectivement, c'est là où il tabasse son frère, et donc c'est là où finalement il y a une rupture à jamais avec son frère. Hein.
Ouais.
Et c'est là où on se dit, ça l'a rendu. Les coups ont eu raison de lui. Donc la boxe a eu raison de lui et a eu raison de son esprit et de son âme, on dirait, parce qu'il devient vraiment très mauvais et extrêmement dangereux. Et il va tout perdre. Il va se retrouver seul après ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, donc, il devient paranoïaque, c'est-à-dire, jaloux, paranoïaque. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre à quel point les paranoïaques ont toujours raison. Il y a toujours de bonnes raisons d'être paranoïaque parce qu'on sait parfaitement que ce qu'on reproche à l'autre, c'est ce qu'on crée soi-même comme situation. On pourrait dire d'une part, d'abord, qu'il a raison de penser que sa femme va voir ailleurs, vu la manière dont il la traite. Donc, il le sait bien. Et c'est ça aussi, les jaloux. Les jaloux savent parfaitement qu'il y a un problème entre eux et leur conjoint, et donc du coup leur conjoint va voir ailleurs, et ils se doutent bien que s'il va voir ailleurs, c'est que eux en sont responsables. Mais ce qui est intéressant encore plus, c'est que c'est eux-mêmes, c'est le paranoïaque lui-même qui crée la situation, qui lui fait dire « les gens me détestent ». Les gens me détestent, les gens m'en veulent, les gens complotent contre moi, parce qu'ils projettent leurs propres pensées, mauvaises et nuisibles, contre les gens, et donc ils pensent évidemment à raison, devoir la recevoir en miroir. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est un désir. La jalousie, c'est un désir. C'est quand même un peu comme le désir de mort. C'est-à-dire, on voudrait que telle personne meure, et après, on se sent coupable de telle manière d'avoir pensé ça. La jalousie, c'est un désir. On peut croire que c'est une crainte, c'est la crainte d'être trompé, mais en fait, c'est le désir d'être trompé. Et c'est là que ça devient très extrêmement intéressant. Et c'est, il y a un sketch de Seinfeld comme ça, où il explique la toute petite différence entre, en anglais, it's great and it sucks. C'est-à-dire entre c'est super et c'est naze. Et il explique, il raconte de manière très, très, très humoristique comment en fait il n'y a pas de différence entre c'est super et c'est naze. C'est la même chose, je dirais, c'est entre le désir et la crainte, d'une certaine manière. Et donc, effectivement, d'ailleurs, les médias aujourd'hui le savent parfaitement puisqu'ils ne parlent que de ce qui est naze. Mais en fait, c'est parce que c'est super. Quand c'est naze, c'est super à dire. Voilà. Il y a une sorte de, je dirais presque, de jouissance du naze. Mais là, d'une certaine manière, il y a le désir, finalement, d'être détesté. Le désir d'être puni. Le désir d'être trompé. Ça correspond à un désir. Et ça, c'est une scène très forte et qui le montre bien.
Et cinématographiquement, cette certitude, cette obsession du personnage est relayée à l'image. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la rigueur des cadrages, du champ contre champ, tout au long de la scène, qui campe le face-à-face entre les deux frères, qui sera d'ailleurs le dernier face-à-face entre eux. Rien ne semble laissé au hasard, tout est absolument contrôlé. Et pourtant, les scènes elles-mêmes sont dirigées de manière à ce que les acteurs puissent improviser là-dedans. Et le regard que jette le frère de Jake quand il lui dit « Est-ce que t'as couché avec ma femme ?» est un regard absolument interloqué. Et Scorsese raconte que pendant le tournage, De Niro avait changé les mots. Il avait dit non pas « Did you fuck my wife ?» mais « Did you fuck my mother ?» Et Pesci avait été tellement surpris de cette phrase qu'il avait eu ce visage complètement interloqué qui a été gardé au montage. Et là, on en arrive aux astuces du réalisateur pour essayer de créer avec les moyens du bord cette vérité dont vous parlez, Eric Rochon.
Oui, il y a aussi de la mise en scène. Alors là, si je me souviens bien, c'est que dans cette scène, ensuite, donc il le frappe, il lui tape dessus, vraiment. Enfin, là, du coup, le boxeur boxe son frère. C'est-à-dire que, en fait, ce qui fait sa force comme boxeur, il le retourne contre sa propre famille et contre son frère. Et là, il y a un moment assez incroyable où, en fait, donc il le frappe, son frère essaie de s'échapper, il le rattrape, il le frappe, et finalement, il le fait passer à travers la porte vitrée de l'appartement. Hein, dans la scène de violence, et c'est là où la violence devient quasi poétique, c'est-à-dire que ça, c'est un geste, c'est une idée de mise en scène. C'est-à-dire que dans le scénario, vous avez Jake frappe son frère. Alors à ce moment-là, le scénario peut être assez détaillé, mais il dira pas tout. Il dira voilà, il frappe son frère, il donne des coups de poing, son frère essaie de s'échapper, il continue à le frapper. Ça, c'est le scénario. Et ensuite, il y a le metteur en scène qui prend en charge ce qui est marqué. Et qui se dit comment je vais aller plus loin, c'est-à-dire que comment je vais moi-même utiliser une sorte de poésie, mais alors là, pour le coup, purement cinématographique. Eh bien, il a cette idée géniale, qui est, à mon avis, je ne suis pas du tout sûr que ça soit marqué dans le scénario. Peut-être ça l'est, mais peut-être ça ne l'est pas. Il a l'idée géniale qu'en le frappant, il est tellement fou qu'il le fait passer à travers la porte vitrée. Et son petit frère, donc, essaye de s'échapper à travers la porte vitrée et dans les bris de verre. Ça, c'est une idée de mise en scène, parce que tout d'un coup, il y a la force de l'image. Alors là, pour le coup, il y a la force de ce qu'on voit qui vient amplifier l'idée. Donc là, la mise en scène et écriture et jeu d'acteur, voilà, sont en harmonie pour donner le plus de force possible au film.
J'aime penser aux acteurs. Parce que, bon, je viens de l'école des Elia Kazan, des Cassavetes. J'aime à penser à eux, comment dire, ils sont entiers. Ils ne jouent pas devant la caméra, sur scène. Ils sont acteurs, derrière la caméra, devant la caméra. Ils sont acteurs, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas d'artifice. Et j'aime bien voir cette chose extraordinaire. J'aime voir les acteurs s'entraîner à ressentir ces émotions, la frustration, la colère, et regarder ce processus sous mes yeux. Et je les vois atteindre un stade de complétude que j'arrive pas à comprendre. Parce que moi, je ne passe pas à travers cet exercice physique accompli par les acteurs.
Vous aurez reconnu la voix de Martin Scorsese. C'était le 27 novembre dernier 2019 au micro d'Augustin Trapenard dans l'émission Boomerang sur France Inter. Il y aurait toute une émission à faire sur le jeu de De Niro et sans doute sur la complicité, l'amitié et le travail entre Scorsese et De Niro. La façon qu'il a de parler de ses acteurs, de cette incarnation physique qu'ils remplissent au moment de jouer. Est-ce que c'est quelque chose dont vous faites l'expérience, vous aussi, Éric Rochant, en tant que réalisateur et directeur d'acteur?
Oui, complètement. Ça, c'est vraiment... Moi, c'est dans une de vos émissions que j'ai eu l'occasion de dire que je pensais qu'il y avait deux types d'acteurs. Il y avait les acteurs intuitifs et les acteurs techniques. Mm-hmm. Alors, les acteurs intuitifs sont ceux, évidemment, que décrit Scorsese, c'est-à-dire ceux qui ne jouent pas. Et d'ailleurs, moi, je ne cesse de dire aux acteurs sur le plateau « ne joue pas ». C'est un peu paradoxal, mais c'est très important.
Oui.
Ils ne jouent pas, ils essayent. En fait, pour dire un texte, il y a deux façons de dire un texte. C'est soit on dit les phrases et on les dit de la manière la plus naturelle possible, donc en imitant le mieux possible le naturel, soit on pense le texte et on le dit parce qu'on le pense. Et moi, j'ai toujours demandé aux acteurs d'essayer d'avoir les pensées du texte. Parce que le texte viendra tout seul ensuite, on n'a presque même pas besoin de l'apprendre. Si on a les pensées du texte, c'est-à-dire la logique interne, si on pense ce qu'on dit, on le dit. Voilà. Et donc ça, c'est la différence entre les deux types d'acteurs. Je pense que les acteurs techniques peuvent être très très bons, mais à niveau d'excellence, au niveau maximum d'excellence, les acteurs intuitifs seront meilleurs que les acteurs techniques. Alors, en même temps, j'ai été amené à m'interroger sur comment on devient acteur, pourquoi on devient acteur. Alors, j'en sais rien, mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est quand même les acteurs aiment bien imiter. Ils sont bons en imitation. Et d'ailleurs, les jeunes acteurs, ceux qui sont pas encore acteurs mais qui vont le devenir, ils ont un don pour imiter leurs prochains, pour imiter même, je dis pas comme les imitateurs, pour imiter des hommes politiques, etc., mais même pour imiter des expressions, pour imiter, ils aiment bien s'amuser à ça. Souvent, au lieu de décrire une situation, il se la joue tout de suite devant vous et tout s'anime. C'est très drôle, c'est très amusant, etc. Bon, les acteurs aiment bien imiter. Je pense que ça fait partie quand même l'imitation du monde ou l'imitation des gens. Ça fait quand même partie, disons, du moteur de l'acteur. Mais les acteurs intuitifs, ce sont des acteurs qui s'imitent eux-mêmes. C'est-à-dire que ils vont chercher non pas chez les autres, mais dans leurs propres sensations, dans leur propre histoire et en eux-mêmes. Ils vont chercher de quoi exprimer ce qu'il y a à exprimer. Et c'est là où, effectivement, il a tout à fait... Enfin, je suis évidemment d'accord avec lui, parce que, encore une fois, je suis né au cinéma, presque, avec son cinéma. Par exemple, je pense à Florence Loire-Écaille, qui, dans ce que j'ai fait avec elle dans le Bureau des Légendes...
Dans le Bureau des Légendes, hein, le personnage de Marie-Jeanne dans le Bureau des Légendes.
Marie-Jeanne, voilà. C'est typiquement une actrice qui ne joue pas. Elle ne joue pas. Et d'ailleurs, des fois, ce qui est compliqué quand on dirige un acteur qui ne joue pas, c'est qu'en fait, il faut trouver les mots qui vont déclencher les sensations et qui vont déclencher le mécanisme qui va leur permettre de trouver les sensations qu'il faut.
Oui, c'est ça. Comment on dirige un acteur qui ne joue pas?
Eh bien, on parle, on dit des choses, et il y a des mots qui sont comme des clés qui ouvrent la porte. Et en général, alors, on peut les trouver, mais des fois, on les trouve pas. Et des actrices, par exemple, comme Florence Warrecaille ou comme Sarah Giraudot, qui sont des actrices absolument extraordinaires,
oui,
qui sont des Stradivarius pour jouer de la musique, vous voyez, n'empêche que même ces actrices-là peuvent être complètement à côté de la plaque dans, sur une scène, tant qu'elles n'auront pas trouvé elles-mêmes les ressources pour ressentir ce qu'il y a à ressentir, non pas pour imiter, non pas pour faire semblant. Ce sont pas des acteurs techniques dans le sens où ils auraient un talent extraordinaire pour faire semblant. Non, ils ont besoin de ressentir. Et pour ressentir, eh bien, il faut un déclic. Il faut trouver le mot qui leur fasse comprendre exactement ce qu'il y a à ressentir. Car ils sont capables de ressentir exactement ce qu'on veut. Sauf que, on sait pas toujours ce qu'on veut, mais surtout, on sait pas toujours le dire, on sait pas toujours le communiquer à l'acteur. Et c'est pour ça qu'à des fois, il m'est arrivé de vraiment de galérer avec des actrices comme ça. Quand on galère, c'est de votre faute, hein, c'est vous, c'est elle, elle galère pas, c'est vous qui galérez. C'est vous qui galérez parce que vous ne trouvez pas le mot qui va provoquer le déclic, c'est-à-dire qui va leur permettre de ressentir ce qu'il y a à ressentir. Et à ce moment-là, des fois, il y a un miracle, on trouve le mot. Un mot, hein. Ça peut être un mot. On trouve le mot et paf, ça part. Elle part et là, elle joue la scène. C'est un miracle.
Bon, j'en profite pour renvoyer les auditeurs qui n'auraient pas encore vu Le Bureau des Légendes et notamment la 5e saison qui vient d'être diffusée, de se précipiter sur cette série pour voir ce que vous voulez dire en action justement avec ces acteurs-là. Et j'imagine que Robert De Niro, pour vous, fait partie des acteurs intuitifs.
Ah bah c'est sûr. Moi, il m'a toujours fasciné aussi pour une raison, c'est que quand je parle des pensées du texte, quand je demande aux acteurs d'avoir les pensées du texte et non pas de dire le texte, mais juste de le penser. Et donc pour le penser, effectivement, il faut vraiment l'intérioriser, hein, faut vraiment le ressentir, quoi. Faut pas faire semblant, faut le ressentir. De Niro a ce génie que, en fait, avant, et d'ailleurs dans la scène où il accuse son frère, où il lui dit « Est-ce que tu as baisé ma femme ?»
Ouais.
Dans cette scène-là, on le voit le penser avant de le dire. C'est extraordinaire. Faut revoir la scène. Mmh. Le regard qu'il a sur son frère, avant de dire la réplique, avant de dire la phrase, on voit qu'il le pense. Ça se voit sur sa figure. C'est du génie à ce moment-là pour De Niro. Et c'est vraiment un acteur, effectivement, c'est un acteur modèle, car je pense que c'est un acteur qui pensait ce qu'il disait.
Une autre scène absolument géniale, et ce sera la dernière que nous allons commenter ensemble, Eric Rochant, c'est la scène où Jack est jeté en prison. Il faut imaginer, donc vraiment, on est en noir et blanc, il y a très peu de lumière, il y a un puits de lumière qui vient de l'arrière, et on le voit marteler le mur à coups de poing et à coups de tête, dans un acte de prise de conscience inouïe, ce qu'il répète, et il répète sans arrêt, « Je ne suis pas cet homme-là, je ne suis pas cet homme-là, je suis stupide, mais je ne suis pas mauvais. »
Fuck you! Fuck you! Fuck your mother!
J'ai des frissons rien que d'entendre cette scène, hein, même sans la voir, ce qui se passe ici est d'une intensité telle qu'on ressent ce que lui ressent à ce moment-là, enfermé entre ces quatre murs. On comprend peut-être la dimension presque religieuse du film, puisque c'est une citation de la Bible qui viendra clore le film. Ici, c'est un homme, il semble complètement dévoré par sa propre culpabilité. C'est ça le terme quand même qu'on n'a pas encore prononcé, Eric Rochant. Ensuite, culpabilité, non ?
Moi, je vois pas de la culpabilité là, dans cette scène-là. Je vois une damnation. Parce que, qu'est-ce qui peut arriver de pire à un homme? Alors, ça, c'est la dimension chrétienne. Qu'est-ce qui peut arriver de pire à un homme que de réaliser qu'il a été mauvais qu'il a péché, enfin voilà, de réaliser qu'il a été mauvais. En le réalisant, c'est une certaine rédemption, mais c'est éternel. La faute est éternelle. Et donc là, il réalise que en fait, la raison pour laquelle il a tout raté. Hein. Il se retrouve en prison, il est obèse, il est fauché, il est évidemment depuis bien longtemps plus champion du monde. Il est seul, sa famille le déteste, il veut même plus le voir, mais il le voit même plus. Eh bien, il se retrouve en prison et là, il se tape la tête contre les murs et il dit « Pourquoi je suis si stupide ? Je suis tellement stupide. » C'est-à-dire qu'il réalise. Il réalise qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Et je crois que ça, c'est terrible. Non seulement c'est terrible, parce que c'est ce qui peut arriver de pire, c'est que c'est tellement terrible que je pense qu'on essaye tous d'échapper à ça. On essaye, et c'est bien pour ça, c'est bien la notion de bouc émissaire, vous permet de manière confortable d'échapper à cette damnation, qui est qu'en fait, vous êtes responsable de ce que vous faites. Voilà, vous êtes responsable de ce que vous faites, et c'est même pas un choix. C'est ça qui est terrible, c'est que ça peut ne pas être un choix. C'est vous, mais ce n'est pas obligatoirement un choix. Le pauvre, il aurait pu, à un certain moment, ne pas taper son frère. Il aurait pu ne pas être si jaloux. Il aurait pu s'excuser même à un moment donné, mais il l'a pas fait. Et là, il se rend compte, il réalise que c'est de sa faute. Voilà, c'est de sa faute. Donc, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, il est dans une prison. Mais la pire des prisons dans laquelle il est, c'est évidemment celle qui enferme son propre cerveau. Et le réaliser est vraiment, je trouve, une figure de la damnation. Car il n'y a pas d'échappatoire. On ne peut pas s'échapper de soi-même. On ne peut pas échapper à soi-même. Et c'est pourquoi on ne peut pas échapper à soi-même que la plupart d'entre nous, nous essayons de le faire. Ça s'appelle le déni, ça s'appelle la mauvaise foi, ça s'appelle la malhonnêteté, ça s'appelle tout ce que vous voulez. Mais c'est pour échapper à l'angoisse qui consiste à réaliser qu'en fait, on est sa propre prison. Voilà. Donc, le seul moyen d'échapper à soi-même, c'était de faire un effort sur soi-même. Et évidemment, ça passe d'abord par cette prise de conscience. Alors, peut-être, il peut y avoir la rédemption derrière ça. Mais ça passe par cette prise de conscience. Mais à ce moment-là, on a la figure de la pire des punitions possibles. C'est-à-dire l'homme qui est complètement déchu, mais qui ne peut en vouloir à personne d'autre qu'à lui-même. Et il s'en rend compte. C'est pas nous qui lui disons, c'est lui qui se le dit. Et c'est pour ça qu'il n'a plus rien d'autre à faire que de taper la tête contre les murs.
Mais s'il est damné, il n'est pas responsable. S'il est né pécheur, selon la pensée chrétienne, hein, s'il était pécheur depuis sa naissance, il n'est pas responsable du mal qu'il commet. Il peut pas à la fois être damné et responsable du mal qu'il a commis.
Non, il y a des choix. L'homme est libre. L'homme est libre d'aller vers le bien ou vers le mal. Enfin, si je me rappelle à peu près de ce qu'on m'a
dit. Ça dépend en quel Dieu nous croyons, oui.
Voilà. On est libre de faire le bien ou le mal et c'est un choix. De certaine manière, c'est un choix. Après, d'aucuns pourraient dire, oui, mais le choix est lui-même induit. En fait, on n'a pas le choix vraiment, mais quand même un peu. Et d'ailleurs, dans l'histoire, on voit à quel moment, finalement. Mais on pourrait dire aussi que, en fait, les coups qu'il a reçus, pendant les combats, ne lui ont pas laissé le choix. Au moment où il regarde son frère et il va commencer à le frapper et donc finalement à s'exiler de sa propre famille, eh bien à ce moment-là, on peut dire qu'il n'avait pas le choix parce qu'il était abruti par les coups qu'il avait pris. Les coups qu'il avait pris, d'ailleurs, qui étaient en fait, qui au départ étaient une bonne chose pour lui dans sa vie, hein, c'est devenir un champion. Et son frère l'a aidé. On pourrait dire que d'une certaine manière, son frère a été complice des coups qu'il a pris. Donc tout ça est assez complexe. Mais je pense pas qu'on puisse en conclure qu'on n'est pas libre. On est libre. Ça, cette figure de la damnation, c'est quelque chose que moi j'ai fait. Mais encore une fois, je vais en reparler encore dans le bureau des légendes, puisque le personnage de Malotru, c'est quelqu'un qui est damné par sa propre faute.
Joué par Mathieu Kassovitz. Hein.
Oui, ça fait beaucoup de mal autour de lui. Ça lui fait beaucoup de mal à lui aussi. C'est-à-dire que, en fait, c'est un champ de ruines autour de lui. C'est un champ de ruines. Pourquoi ? Parce que il a été au bout de lui-même. Et je voudrais juste terminer, si j'ai un tout petit peu de temps, sur les personnages de cinéma. Quand on écrit un personnage, pour le rendre vraiment consistant, il faut se poser deux questions, je pense. Il faut se dire d'abord quelle est sa vérité, donc quelle est sa caractérisation la plus profonde. Et ensuite, il faut amener le personnage à sa propre limite, car c'est à ce moment-là qu'il va prendre la consistance. C'est à ce moment-là qu'il va dépasser le personnage de papier ou théorique d'écriture, de fait de mots. C'est à ce moment-là que tout d'un coup, il va traverser les phrases qu'il le décrivent. Donc c'est au moment où il se heurte à sa propre limite. Hein. Donc ce personnage qui est violent et abruti va se heurter à sa propre limite. Sa propre limite, c'est quoi ? C'est qu'est-ce qui peut lui arriver de pire ? Quel est le comble du personnage? C'est quelque chose que les scénaristes doivent se poser comme question. Quel est le comble de mon personnage? Le comble de son personnage, le comble, c'est de réaliser à quel point il est stupide. Voilà. Ça, c'est le comble.
Ouais. Ce que je sais, c'est qu'avant, j'étais aveugle et que maintenant, je vois. C'est l'évangile selon saint Jean. C'est la dernière phrase du film qui apparaît sur l'écran et ce sera la dernière phrase de l'émission. Merci beaucoup, Éric Rochant.
Merci à vous.
Et je renvoie donc les auditeurs au Bureau des Légendes qui nous a accompagnés pendant le confinement, la saison 5 notamment, vous pouvez la regarder en entier. Merci d'avoir fait en sorte d'ailleurs de la rendre disponible un peu plus tôt pour que nous autres confinés puissions en profiter. Et bravo et merci d'avoir participé ce matin à cette émission.
Merci à vous. I married Isis on the fifth day of May, but I could not hold on to her very long. So I cut off my hair and I rode straight away for the wild unknown country where I could not go wrong. I came to a high place of darkness and light. The dividing line ran through the center of town. I hitched up my pony to a post on the right. Went into a laundry to wash my clothes down. A man in the corner approached me for a match. I knew right away he was not ordinary. He said, are you looking for something easy to catch? I said, I got no money, man. He said, that ain't necessary. We set out that night for the cold and the north. I gave him my blanket and he gave me his word. I said, where we going? He said, we'd be back by the fourth. I said, that's the best news that I've ever heard. I was thinking about turquoise. I was thinking about gold. I was thinking about diamonds and the world's biggest necklace. As we rode through the canyons, through the devilish cold, I was thinking about Isis. As she thought I was so reckless, she told me though that one day we would meet up again and things would be different the next time we wed. If I could only just hang on and be her friend. I still can't remember all the best things she said. Isis de Bob Dylan, auquel Martin Scorsese a consacré un documentaire que vous pouvez voir en ce moment sur Netflix. Isis, Isis, c'est aussi le nom de la personne qui a préparé cette émission, Isis Jourda, sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques mois, le monde de la philosophie s'agite autour d'une découverte inattendue, la tombe supposée de Michel de Montaigne. Des fouilles entreprises en novembre dernier, mais suspendues pour cause de Covid, permettraient de déterminer si ce tombeau, découvert inopinément dans les sous-sols du musée d'Aquitaine, à Bordeaux, serait bien celui de l'auteur des essais. Pourquoi une telle excitation a levé le doute sur ce qu'il reste du maître sceptique du XVIe siècle ?
C'est au sous-sol du musée d'Aquitaine, en 2018, que Laurent Védrine, directeur du musée, pense avoir identifié la sépulture de Michel de Montaigne, le célèbre philosophe du XVIe siècle. Cette année, pour en avoir le cœur net, le musée a fait appel à une équipe d'archéologues pour ouvrir le tombeau et en étudier le contenu. Si les études confirment qu'il s'agit bien du corps de Montaigne, cette découverte aurait un retentissement international à la hauteur de la renommée de l'auteur des essais.
Pourquoi découvrir la tombe d'un philosophe met-il dans un tel état ? Excitation, moment historique, émoi, surprise, les mots ne manquent pas pour décrire l'effet produit par une telle recherche, digne de l'enquête policière, comme l'a très bien remarqué et retracé le journal Le Monde jeudi dernier. Historien, archéologue, administrateur de la mairie de Bordeaux, montaigniste professionnel ou amateur, ils sont tous aux aguets. Et je dois dire, moi aussi. Imaginez remettre la main sur le corps d'un des plus grands philosophes français, percer le mystère de la disparition de sa tombe, lever le voile sur l'identité du maître sceptique. Pourtant, quand on y pense, il n'y a rien de plus cocasse en fait, car il s'agit d'identifier, de juger et de cerner définitivement celui qui a cependant élevé le doute au rang d'art, celui qui n'a fait que dépeindre les flottements de l'identité, celui qui enfin a passé des centaines de pages à raconter ses déboires physiques. Est-ce cohérent ? Peut-on aimer Montaigne et sa pensée et vouloir résoudre ce mystère ? Au fond, la question est là. Pourquoi vouloir connaître ça? Qu'est-ce qu'une telle connaissance va-t-elle pouvoir m'apporter à moi, à ses lecteurs, à lui? Qu'est-ce qu'elle pourra apporter à ma vision de Montaigne, à l'appréhension de son œuvre, à l'amour ou à l'analyse qu'on fait des essais?
Pas de ciel jamais dans mon sous-terre, pas de bouquet mais les locataires, sitôt qu'ils ont oublié, curieux système, transplantent dans l'escalier leur chrysanthème. Je ne me plains pas tout beau, j'ai l'avant-goût du tombeau.
Depuis que j'ai découvert cette enquête sur le tombeau de Montaigne, je ne cesse d'osciller entre curiosité et perplexité. Je veux en savoir plus, mais je me demande en fait pourquoi. Pourquoi vouloir savoir ça? Qu'est-ce que ça pourra m'apporter? En lisant les différents articles, j'ai vu que les motifs des uns et des autres dans cette enquête étaient assez différents. Certains, par exemple, veulent profiter de cet événement pour faire redécouvrir Montaigne. D'autres, pour augmenter la valeur patrimoniale de Bordeaux. D'autres ont juste une passion pour la découverte, la fouille et l'histoire. D'autres, enfin, une passion pour le philosophe et veulent tout savoir de lui. Même un spécialiste de l'archéoentomologie, c'est-à-dire des insectes fossiles, a été mis sur le coup déclarant « On ne sait pas ce qu'on va découvrir, peut-être rien, peut-être des choses formidables, mais aussi des éléments plus anecdotiques, savoir si Montaigne avait des poux ou des morpions. » Savoir si Montaigne avait des poux ou des morpions. Eh bien, j'ai beaucoup ri en lisant ça. Drôle de motivation. Mais c'est vrai. Moi aussi, eh bien, j'aimerais bien savoir ça. Mais alors pourquoi? Montaigne serait-il comme les stars que je scrute dans les magazines People? Pas maquillées, pas apprêtées, autant intéressantes pour leurs frasques que pour leurs œuvres? Serait-ce Montaigne l'adoré, la star, plus que sa pensée, plus que ses essais?
Une femme du monde, et qui souvent me laisse faire mes quatre voluptés, dans ses quartiers de noblesse, m'a sournoisement passé sur son divan de soie, des parasites du plus bas étage qui soit, sous prétexte de bruit, sous couleur de réclame, ai-je le droit de ternir l'honneur de cette dame, en criant sur les toits et sur l'air des lampions. Madame la marquise m'a foutu des morpions. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée.
Ce qui est frappant avec cette affaire, c'est que paradoxalement, on veut non seulement dépouiller le penseur du scepticisme de son mystère, on veut non seulement tout savoir d'un philosophe ayant théorisé l'ignorance, mais en plus, loin de l'idée qu'il faille séparer l'homme de l'artiste, on veut à tout prix faire coïncider les deux. C'est comme s'il fallait tout le temps tout connaître et tout rendre cohérent, tout éclairer et tout discerner, chez une seule et même personne, de son corps à son esprit, de ses actes à son œuvre. Or, est-ce pertinent de pousser la connaissance jusque-là? Je me pose vraiment la question, et je l'avoue, je ne sais pas. J'y vois l'évidence de faire la lumière, mais aussi le fantasme d'un savoir total un peu éblouissant. Je crois donc que je vais m'en tenir à la déclaration de Laurent Védrine, le directeur du musée d'Aquitaine. Nous sommes vraisemblablement en présence de Michel de Montaigne, tout étant dans le...
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer ces émissions. Clara de Giovanni, Isis Jourda, Manon de Lasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. C'est Nicolas Berger qui réalise cette semaine sur Scorsese. À la prise de son aujourd'hui, c'était Nasser Moussaoui. Merci aussi au CDM de Radio France qui a assuré la liaison avec mon invité Éric Rochant. Merci à Maëlys Ricordo qui a prêté sa voix pour le texte du jour. On se retrouve demain pour la suite de cette série autour de Martin Scorsese. Demain, on parlera des affranchis et ce sera en compagnie de Sophie Gigot. On se demandera si on peut se libérer des normes en devenant un gangster notamment. D'ici là, sachez que vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger pour l'écouter au moment de la journée que vous choisirez et que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. On est toujours ravis de lire vos commentaires. On se retrouve demain donc à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.